Voilà, ça réveille, c'est très bien. Tout le monde sera à présent dans de bonnes dispositions pour la suite. Igor Stravinsky est le compositeur de ce chant du Rossignol, poème symphonique dont nous entendions le premier mouvement, Marche chinoise. Pierre Boulez à la direction de l'Orchestre national de France. Chaque semaine, nous vous proposons un opéra différent, du grand répertoire aux partitions de niche, en français, en italien, en allemand, en anglais, mais aussi en russe. Ce soir, nous allons entrer, excusez-moi, dans le nez de Dmitri Chostakovitch, créé en 1930. On passe à l'acte.
Eh bien, pour rester dans le ton d'une émission dominée par la culture et le classicisme, nous vous présentons en italo-germano-franglais le duo d'amour du troisième acte du Barbier de Die Fledermaus, de Giuseppe Wagner ou de Sheila Verdi. Enfin, de toute façon, c'est n'importe quoi.
Bazar, passage à l'acte.
Le nez, Nos, en russe, c'est un opéra de l'excès, excessivement court, moins de 2 heures, excessivement peuplé, plus de 70 personnages, excessivement inventif et excessivement loin de tous les canons dramatiques qui font d'un opéra, finalement, un opéra. Le nez, c'est d'abord une nouvelle de Nikolaï Gogol, commencée en 1832 et achevée dans sa version censurée en 1835. Son titre premier était « Sonne » ou « Rêve », palindrome de « Nos »,« Né ». Oui, vous lisez à l'envers, ça fait « Sonne »,« Nos », bref. Moyen littéraire remarquablement efficace pour résumer l'histoire absurde d'un type boursouflé qui perd son nez. La nouvelle de Gogol, longue d'une quarantaine de pages en format poche, a été naturellement adaptée aux besoins du théâtre chanté, travail effectué en grande partie par Chostakovitch lui-même, bien que 3 autres librettistes soient également crédités pour certaines parties. Comme la prose de Gogol est particulièrement savoureuse, pour cet opéra-là, je vous propose qu'on se lise plutôt quelques lignes de la nouvelle que du livret pour en accompagner l'écoute. Le nez. Ce jour-là, 25 mars dernier, Pétersbourg fut le théâtre d'une aventure des plus étranges. Le barbier Ivan Yakovlevitch, domicilié avenue de l'Ascension, son nom de famille est perdu et son enseigne ne porte que l'inscription « On pratique aussi les saignées » au-dessous d'un monsieur à la joue barbouillée de savon. Le barbier Ivan Yakovlevitch se réveilla d'assez bonne heure et perçut une odeur de pain chaud. S'étant mis sur son séant, il vit que son épouse, personne plutôt respectable et qui prisait fort le café, défournait des pains tout frais cuits. Alors le café en Russie, ça nous vient de Pierre le Grand, dont vous vous rappelez peut-être l'évocation dans l'opéra de Moussorgsky, Kovanchina. Aujourd'hui, Praskovy Osipovna, c'est le nom de sa femme, je ne prendrai pas de café, déclara Ivan Yakovlevitch. Je préfère grignoter un bon pain chaud avec de la ciboule, c'est-à-dire un toast aux oignons. À la vérité, Ivan Yakovlevitch aurait bien voulu et pain et café, mais il jugeait impossible de demander les 2 choses à la fois, Praskovy Osipovna ne tolérant pas de semblables caprices. Tant mieux, se dit la respectable épouse en jetant un pain sur la table, que mon nigo s'empiffre de pain, il me restera davantage de café. Respectueux des convenances, Ivan Yakovlevitch passa son habit par-dessus sa chemise et se mit en devoir de déjeuner. Il posa devant lui une pincée de sel, nettoya 2 oignons, prit son couteau et, la mine grave, coupa son pain en 2. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un objet blanchâtre au beau milieu. Il le tâta précautionneusement du couteau, le palpa du doigt. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» se dit-il en éprouvant de la résistance. Il fourra alors ses doigts dans le pain et en retira un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se frotta les yeux, palpa l'objet de nouveau. Un nez, c'était bien un nez, et même, semblait-il, un nez de connaissance. L'effroi se peignit sur les traits d'Ivan Yakovlevitch. Mais cet effroi n'était rien comparé à l'indignation qui s'empara de sa respectable épouse. Alors là, elle commence à l'engueuler. « Où as-tu bien pu couper ce nez, bougre d'animal » s'exclama-t-elle. « Fume-lard, salaud !» Cependant, Ivan Yakovlevitch était plus mort que vif. Il venait de reconnaître le nez de Monsieur Kovalyov, assesseur de collège qu'il avait l'honneur de raser le mercredi et le dimanche. « Minute, Praskovy Osipovna, je m'en vais l'envelopper dans un chiffon et le poser dans ce coin. En attendant, je l'emporterai plus tard. » Il manquait plus que ça. Crois-tu par hasard que je vais garder ici un nez coupé ? Espèce de vieux crouton, tu ne sais plus que repasser ton rasoir. Tu ne seras bientôt plus capable de raser les gens comme il faut. Ah, le maudit coureur. Ah, la brute. Ah, le mal appris. Et il faudra encore que je réponde pour lui à la police. Emporte-le tout de suite, saligo. Emporte-le où tu voudras et que je n'en entende plus parler. Ivan Yakovlevitch demeurait pétrifié de surprise. Il avait beau réfléchir, il ne savait que penser. « Comment diantre cela est-il arrivé » proféra-t-il enfin en se grattant derrière l'oreille. « Étais-je plein quand je suis rentré hier au soir ? Je ne m'en souviens plus. Et puis vraiment, l'aventure tient de l'invraisemblable. Qu'est-ce que ce nez est venu faire dans ce pain ? Non, je n'y comprends goutte. » Ivan Yakovlevitch, chassé par sa femme, sort de chez lui dans le but de se débarrasser de ce nez qu'il a trouvé dans son pain toast en déjeunant. Il veut se faire la technique du petit sachet. Vous la connaissez, la technique du petit sachet? Comme vous faites pour éviter de payer la taxe au poids ou au sac, vous mettez vos ordures ménagères dans un cornet plastique, en prenant soin de ne pas laisser d'informations qui seraient susceptibles de vous mettre en cause, une facture, etc., un ticket, un machin, et vous larguez le paquet discretos dans la poubelle de l'arrêt de bus. Ou alors, quelque part dans votre commune, ni vu, ni connu. Yakovlevitch balance son mouchoir qui contient le nez, mais un mec de la voirie le surprend. Il fait « Eh, monsieur, on n'est pas à Naples ici, la poubelle est juste ici. » Bon, il ramasse son truc, et désespéré de se débarrasser enfin de ce nez, finit par le jeter dans la rivière. Pas de bol, cette fois, c'est un flic qu'il voit et qui vient lui demander ce qu'il fabriquait sur ce pont dans la plus pure expression du zèle policier. Retour à présent dans le texte de Nikolaï Gogol. L'assesseur de collège Kovalyov se réveilla d'assez bonne heure en murmurant « brrr », enfin russe c'est « brrr », suivant une habitude qu'il aurait été bien en peine d'expliquer. Il s'étira et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, lui avait poussé sur le nez. Alors on sent le truc venir. À son immense stupéfaction, il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse. Tout alarmé, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec un essuie-main. Le nez avait bel et bien disparu. Il se palpa, se pinça même pour se convaincre qu'il ne dormait point, mais non, il paraissait bien éveillé. Kovalyov sauta à bas du lit, s'ébroua, toujours pas de nez. Il s'habilla séance tenante et se rendit tout droit chez le maître de police.
Mm-hmm. Что такое? Что нас? Где же нас не может быть? А ты мне полотенце? Точно нет носа, не может быть. Да. Щипни. Ой! Нет, кажется, не сплю. Все нет. Нос. Отец со мне.
Если спросят, куда ушли, как сказать?
Копер полицмейстеру!
Полицмейстеру. Le troisième tableau du premier acte du Nez, opéra de Dmitri Shostakovich, Evgeny Akimov dans le rôle de l'assesseur de collège Kovalev qui se réveille sans son pif et qui va à la police, et son valet Ivan, campé par le baryton Boris Droujnin. Ils étaient accompagnés de l'orchestre de l'opéra de chambre de Moscou, sous la direction de Gennady Rojdestvensky, sur cet enregistrement de 1974. Tout à l'heure, c'était l'interlude de percussion du même acte par les percussionnistes de l'orchestre de chambre de Lausanne, d'une production de 2004. Cette séquence opéra est à écouter tous les soirs à 18h dans Bazar. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous.
Bazar.
La la lou, la la lou. Oh, my little star sweeper, I'll sweep the stardust for you. La la lou, la la lou. Little soft, fluffy sleeper. Here comes a pink cloud for you. La la loo, la la loo. Little wandering angel, fold up your wings for tonight. La la loo, la la loo, and may love be your keeper. La la loo, la la loo, la la loo. La la loo, la la loo. Oh, my little star sweeper, I'll sweep the stardust for you. La la loo, la la loo. Little soft, fluffy sleeper, here comes a pink cloud for you. La la loo, la la loo. Little wandering angel, fold up your wings for tonight. La la loo, la la loo. And may love be your keeper. La la loo, la la loo, la la loo. Good night, little star sweeper.
Peggy Lee, qui interprète en 1955 un extrait de la bande originale du dessin animé Disney, La Belle et le Clochard. Puisque nous étions dans quelque chose de cinématographique, continuons avec... c'est pas du Disney, non, ça sera pas du Disney. Il s'agit maintenant d'un extrait de Notre-Dame de Paris, dont la musique est signée Georges Auric.
Thank you.
avons successivement entendu les trois parties qui constituent le cinquième et dernier numéro d'une suite pour orchestre basée sur la musique du film Notre-Dame de Paris. J'y viens dans un instant. Le désespoir de Quasimodo, la cave de Montfaucon, et Montfaucon, pas là où il y a le village Fareca, d'ailleurs, Franche-Montagne, hein, Montfaucon Paris, et le final. Adriano, le chef suisse, à la direction de l'Orchestre symphonique de Moscou, dans cette musique signée Georges Auric. Alors ce film, Notre-Dame de Paris, il est sorti en 1956, la musique est signée Auric, comme je l'ai dit, et la réalisation Jean Delannoy.
Thank you.
Parmi toutes les symphonies pour orgue de Charles-Marie Vidor, c'est sans doute le mouvement de cette cinquième-là qui est le plus connu, la toccata de la cinquième symphonie pour orgue. Olivier Latry était derrière les claviers des grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Une reprise d'une chanson de Jacques Brel, Les Bourgeois, Fionnuala Doriti avec l'ensemble Dead Belgian. Aujourd'hui, sur les à peu près de 18h30, je vous propose une courte plongée en apnée dans des écrits de compositeurs. Mais attention, il ne va pas s'agir de beaux chapitres immaculés finis au subjonctif plus que parfait. Les pages que nous feuilletons révèlent l'envers d'un décor parfois fantasmé, disent l'humain avant l'artiste, ses tracas, ses idées, ses combats. C'est les gros textes de la musique.
Enfin, c'est grotesque.
Ouais, c'est pas faux.
Et alors ?
C'est cela, la littérature.
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
Nous sommes dans les documents Bach qui nous livrent de larges tranches de la vie de Johann Sebastian Bach. En 1705, il a 20 ans. Un âge auquel, comme l'a à peu près chanté Brel, on est beau et con à la fois. Il occupe le poste d'organiste de l'église neuve d'Arnstadt. Or, il doit aussi en diriger le chœur. Et ça ne se passe pas pour le mieux, non, non. Un certain choriste et écolier de 3 ans, son aîné, du nom de Geiersbach, le provoque en pleine rue. C'est la bagarre. Sont confrontés devant le consistoire, c'est-à-dire l'autorité religieuse, Geiersbach, ses petits copains, le principal intéressé, et une cousine à lui, pas sa femme, une autre cousine, puisque sa première femme c'était sa cousine, qui l'accompagnait. Voici un recoupement de différentes pièces. Acte du consistoire d'Arnstadt. Johann Sebastian Bach, organiste de l'église neuve de la ville, a comparu ici même et déclaré que, revenant au logis hier tard dans la nuit, sortant du château et arrivant sur la place du marché, il a vu 6 écoliers assis sur des bancs de pierre et que, alors qu'il passait devant l'hôtel de ville, un écolier du nom de Geiersbach l'a suivi et lui a donné des coups, lui demandant pourquoi il l'avait injurié. Bach répondit qu'il ne l'avait pas du tout injurié et que personne ne le pouvait prouver puisqu'il était resté silencieux. Là-dessus, Geiersbach dit que s'il ne l'avait pas injurié, il avait cependant injurié son basson et que quiconque injurie ce qui lui appartient, l'injurie lui-même et que seul un chien ferait cela. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un petit peu difficile de démêler qui a fait quoi, mais heureusement, Barbara Katharina, la cousine de Bach qui l'accompagnait, semble faire toute la lumière sur les faits par son témoignage. En fait, à l'occasion d'une répétition, Bach aurait visiblement traité le basson de Geiersbach de vieille chèvre. Voilà, imaginez cette situation. Ce qui a passablement blessé l'écolier. Le voyant passer nuitamment devant lui et sa bande de potes, il l'interpelle, il y a Bach qui arrive, il dit « dis donc, hein ?» Il lui reproche ses mots et il lui plante une claque, ce qui incite Bach à tirer son épée et à balancer aussi des coups à son agresseur pour se venger. Verdict du consistoire, éodème, alors oui, il y a toujours des mots latins, hein, c'est dans la veine d'écriture de l'époque, éodème, il est exposé à l'élève Geiersbach que, d'après l'interrogatoire de Barbara Katharina Bach, on constate qu'il est à l'origine de ce qui s'est passé et que non seulement il lui a adressé le premier la parole, mais encore qu'il a été le premier à frapper. Donc c'est la faute de Geiersbach. C'est-à-dire Geiersbach, reconnaît avoir frappé Bach, mais dit que celui-ci l'a piqué de son épée, ce que l'on peut constater au trou que présente sa chemise. Pauvre chaton. Nos, c'est-à-dire le consistoire. S'il avait à parler à Bach, il aurait dû le faire autrement. Et de telles choses ne doivent pas se produire sur la voie publique. Bah ouais, quand même. Résolvitur, puisqu'aucun de ces messieurs, les pasteurs, n'était présent, les deux personnes sont libres de partir pour cette fois, mais un avertissement doit leur être adressé. Les premières minutes de La Bataille, The Battle, de William Byrd, compositeur anglais de la seconde moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque élisabéthaine, durant laquelle était très en vogue la musique pour virginal. Le virginal, c'est cette espèce de clavier de salon à cordes pincées, sorte de clavecin, si vous préférez, qui était très apprécié dans les salons anglais de cette époque-là. Ici, nous entendions une transcription pour ensemble de cuivre et percussions signée Elgar Haworth, qui était à la tête du Philip Jones Brass Ensemble. Laurence Equilibet à la direction de l'orchestre Insula et de l'ensemble Accentus dans le cinquième numéro des Vêpres solennelles du Confesseur de Wolfgang Amadeus Mozart, le Laudate Dominum. Merci d'être avec nous sur RTS Espace 2. Bazar vous accompagne en musique jusqu'à 19h30.
Thank you.
Le premier mouvement du concerto pour piano et orchestre en ré majeur de Carl-Philipp Emanuel Bach, Michael Reiche au piano accompagné des Berliner Baroque Solisten. Votre fin de journée sur RTS Espace 2, c'est Bazar. Merci d'être avec nous. Bazar, une émission que vous pouvez écouter du lundi au vendredi. C'est un nouveau jour de la semaine, de 17h30 à 19h30. Et puis dans sa version best-of, le samedi, au même horaire, dans votre radio, mais aussi partout ou n'importe quand, sur l'application Play RTS.